Cécile Bara.
Dans la première partie de l'émission, nous avons vu que les requins n'étaient pas, contrairement aux idées reçues, des mangeurs d'hommes. Nous avons vu aussi qu'il en existait plus de 400 espèces et que les plus anciens parcourent nos océans depuis plus de 400 millions d'années. Mais en 40 ans, 90% des populations de requins adultes ont disparu. En cause, la pêche thonnière qui les prend dans ses filets et la flambée du prix de l'aileron depuis le début des années 90. Les Asiatiques adorent le consommer sous forme de soupe. Quelles sont les solutions pour limiter cette surpêche pratiquée notamment au large de l'Afrique de l'Ouest, de la Mauritanie à la Sierra Leone? Existe-t-il des lois pour interdire la pêche de certaines espèces? Et finalement, pourquoi cela serait-il embêtant qu'il n'y ait plus de requins dans nos océans? C'est ce que nous allons voir avec nos quatre invités. Nicole Osseda, coordinatrice française de Shark Alliance, qui regroupe plus de 160 ONG européennes de protection de requins. Tariq Chekchak, directeur sciences et environnement de la Fondation Cousteau. François Sarano en duplex de Valence, grâce aux équipes techniques de France Bleu Drôme Ardèche, qui se bat avec son association Longitude 180, entre autres, pour la préservation des requins, et par téléphone de Dakar au Sénégal, Mika Diop, biologiste et coordinateur du projet sous-régional de conservation et de gestion durable de la population des requins en Afrique de l'Ouest. Alors justement, pour comprendre la réalité de cette pêche aux requins, je vous propose de partir tout de suite au sud du Sénégal, en Casamance, dans le village d'Elinkine, proche de l'embouchure du fleuve Casamance. Depuis le milieu des années 90, ce village est devenu la plaque tournante du commerce des ailerons de requins. Alain de Valpo est sur la plage avec des pêcheurs face à une pirogue prête à partir pour une campagne de pêche aux requins.
Le pirogue qui va faire la pêche de requins, il a à peu près 25 mètres de long.
25 mètres de long, un équipage de combien de personnes?
Un équipage de 11 personnes. La profondeur, c'est 3,50 m de la pirogue.
Et les filets qui sont utilisés, ce sont les filets là que l'on voit un peu plus loin, donc avec des grosses mailles.
Oui, ce sont les filets qu'on voit un peu plus loin avec de grosses mailles pour les requins et en plus pour les ragueteurs.
Et pour les ramener à bord, ces filets, il n'y a pas de matériel, comment vous faites?
On prend les bras pour tirer, c'est notre force qu'on prend pour tirer ces filets. Et c'est très 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 dur même. Tu as vu mes bras comment ils sont? Tous mes bras sont gâtés à cause de la mer.
C'est quand la dernière fois que vous êtes parti à la pêche aux requins, Mustapha?
C'est l'année passée.
Vous êtes parti combien de temps?
On est parti à peu près 27 jours en haute mer.
Et vous avez gagné combien?
Bon, j'avais gagné 45 000. Pendant 27 jours, j'ai gagné 45 000. Parce que la marée n'était pas bonne. On n'a pas gagné assez suffisamment de requins.
C'est pas beaucoup.
Non, c'est pas beaucoup.
Ce témoignage est extrait d'un reportage de 25 minutes diffusé hier dans C'est pas du vent sur Elinkine, plaque tournante du commerce d'ailerons de requins que vous pouvez réécouter sur notre site internet www.rfi.fr. Mika Diop, vous connaissez bien évidemment cette région. On entend à travers ce témoignage que la pêche aux requins finalement est de moins en moins rentable.
Effectivement, ce témoignage, c'est juste la pêche aux requins est de moins en moins rentable. Le pêcheur a dit qu'il a fait 27 jours pour gagner 45 000. Alors qu'avant, auparavant, il suffisait de faire une semaine en mer, on revenait avec une pirogue pleine. Aujourd'hui, donc, on voit que les conditions de pêche deviennent de plus en plus difficiles. La pêche n'est plus rentable.
Alors, il y a deux marchés qui justifient la pêche dans cette région. Il y a celui de la chair de requin, qui est beaucoup consommée, notamment au Ghana et au Nigeria, et puis celui de l'aileron de requin.
Mais le moteur de l'exploitation des requins en Afrique de l'Ouest, c'est surtout le marché asiatique. Parce que dans les années 70, on ne pêchait que très peu pour la consommation locale. Et quand il y a eu donc l'avènement du marché asiatique, les ailerons donc sont exportés vers l'Asie. Et on a vu dans ces années-là que sur les plages, on trouvait beaucoup de carcasses de requins qui n'étaient pas utilisées. C'est par la suite qu'on a trouvé des débouchés pour faire du salé séché et du fumé, pour revendre donc sur le marché ghanéen et nigérien.
Et comment ça se passe, donc, la vente des ailerons de requin? Ça rapporte combien? Qui s'en met plein les poches, finalement?
Ça rapporte beaucoup, surtout pour ce que nous appelons ici les opérateurs cachés. Il y a les grands commerçants, les gros bonnets, qui financent des marées pour aller chercher les ailerons de requin. Donc, ces pêcheurs deviennent de plus en plus endettés.
Alors, ils s'endettent parce que ça coûte cher de partir avec un bateau pendant 3 semaines en mer. Donc, ils s'endettent pour le bateau et ensuite, ils espèrent récupérer l'argent en vendant les ailerons au retour, c'est ça?
Voilà, au retour, ils amènent très peu d'ailerons. Ces commerçants vont revendre sur le marché asiatique, ramener des produits manufacturés. Ils continuent tous à rentabiliser leur opération alors que les pêcheurs continuent à s'endetter. Ils ne peuvent plus sortir de cette pêche. Ils sont dans un cercle vicieux, ils sont obligés toujours de continuer à pêcher pour pouvoir rembourser leurs dettes.
Et ça se vend à peu près 150 euros le kilo, un aileron de requin, c'est ça?
Effectivement, 150 euros le kilo à l'exportation.
Nicole Osseda, vous faites un signe comme quoi ça monte, ça monte.
Ça monte à Hong Kong, Taïwan en fait. C'est là où sont centralisés tous les ailerons pêchés dans le monde. Et là, ça peut atteindre 500, 600 euros.
Mais pourquoi il y a cette fascination pour l'aileron de requin ?
À cause de la soupe aux ailerons de requin, qui était un mets honorifique, qui n'était servi à l'époque qu'à la table des empereurs chinois, et qui est un signe de richesse. Et comme la classe moyenne explose dans ces pays, eh bien, tout le monde, maintenant, veut sa soupe aux ailerons de requin. C'est vendu assez cher, hein. C'est vendu 10, 15 euros la soupe. Mais, ma foi, la population est énorme. Il n'y a pas que des empereurs qui la mangent maintenant.
Alors, comme vous le disiez, François Sarano, on peut évidemment pas culpabiliser les pêcheurs qui, dans ces régions, ont besoin de gagner leur vie et donc, finalement, profitent d'un marché florissant.
Et en plus, ils ne la gagnent pas.
On vient de l'entendre.
Exactement. Non seulement ils ne la gagnent pas, mais ils s'endettent pour aller enrichir quelques trafiquants, il n'y a pas d'autre mot, qui profitent de l'explosion du marché des ailerons de requins, non seulement en Asie, mais j'insiste aussi sur le fait que ça va beaucoup aux États-Unis, où la communauté asiatique est très importante. Hein. Il faut savoir que ce sont les deux plus gros marchés, sachant que les plus gros fournisseurs ne sont pas les Africains, mais les Européens et en particulier les Espagnols. Donc il faut aussi bien penser que c'est un marché qui est global.
Alors, Tariq Chekchak, vous suivez ce trafic des ailerons de requin avec la Fondation Cousteau ?
On s'y intéresse, bien sûr, comme beaucoup de passionnés des milieux marins qui veulent voir les choses un peu changer quand même dans le bon sens. C'est un problème qui est très complexe, qui est global, hein, tout à fait, comme vient de le dire François. Et bien sûr, c'est pas forcément toujours les petits pêcheurs pauvres des pays en voie de développement qui sont forcément les plus gros pêcheurs. Hein. Bon, parmi les plus gros pays, il y a l'Indonésie, l'Inde, l'Espagne, pour l'Europe, c'est le premier, effectivement. Puis l'Argentine, Taïwan, les États-Unis et le Mexique, hein, parmi les principaux pays pêcheurs.
Donc la pêche au large de l'Afrique de l'Ouest, dont s'occupe Mika Diop, est finalement assez peu impactante pour les populations de requins ?
On parle du même problème, toujours, hein, bien sûr, mais effectivement, il faut quand même replacer les choses. Je veux dire, s'il y a du lobby à faire, c'est entre autres dans les pays qui sont les principaux pêcheurs et aussi les principaux consommateurs. Comme vous le disiez tout à l'heure, tout à fait, c'est pas pointé non plus une culture en particulier. Nous autres, on a des pratiques culinaires qui peuvent être pointées du doigt dans d'autres pays. Mais c'est le problème de la densité et de la population, finalement, du nombre de personnes qui maintenant ont accès à cette tradition, qui pose un vrai problème écologique et qu'il faut savoir aussi pointer, sans avoir de tabou par rapport à ça.
Alors Nicole Osseda, justement, vous qui avec Shark Alliance essayez de mobiliser au niveau européen, on parlait de l'importance de la pêche en Espagne, vous en êtes où ?
Alors nous, on a commencé en 2007, hein, et on a voulu d'abord obtenir ce que la FAO demandait depuis 1999, c'est-à-dire que tous les pays pêcheurs devaient se doter d'un plan d'action pour les requins. Et l'Europe était très en retard. Donc notre première action a été d'obtenir ce plan d'action avec du lobbying, bien sûr. Et c'est arrivé en février 2009. Et en avril 2009, le Conseil pêche, c'est-à-dire le Conseil des ministres européens des pêches, a décidé que la priorité des priorités, c'était de renforcer la réglementation sur le finning. Le finning, c'est la découpe des ailerons. Et nous en sommes là, c'est-à-dire que depuis, nous essayons de faire... Ils avaient dit à l'époque, on se donne un an pour le faire. Et en fait, on y est toujours. On a obtenu en décembre 2010 qu'une majorité des parlementaires européens signe une déclaration écrite, ce qui fait que ça devient une résolution du Parlement européen qui demande à ce que la Commission fasse une réglementation très stricte, interdisant tout simplement la découpe des ailerons à bord de tous les navires européens et dans toutes les mers européennes.
Oui, donc on est en attente d'une législation, en gros, et après, il faut que la législation soit appliquée.
Alors voilà, en Europe, il y a quand même pas mal de contrôles. Mais ailleurs, ça sera beaucoup plus difficile à suivre. Évidemment, il faudra que les autres pays se dotent de la même chose. Mais l'Europe a ce pouvoir d'entraînement sur les pêches mondiales. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important que l'Europe accepte de passer à cette interdiction totale de la découpe des ailerons.
Enfin, il y a quand même deux rythmes, hein, parce qu'on entend Mika Diop qui essaye de se battre au quotidien en Afrique de l'Ouest, hein, alors que finalement, vous êtes assez peu responsable au niveau mondial de la disparition des requins. Comment vous réagissez à ce que l'on vient de dire ?
Ici, nous, au niveau donc, de l'Afrique de l'Ouest, comme je viens de rappeler, nous avons aussi suivi les recommandations de la FAO pour mettre en place donc un plan sous-régional d'action de conservation de la population de requins. Et donc ce plan, donc, il est en vigueur depuis 2004. nous essayons d'avoir mis en place un projet pour la mise en œuvre.
Alors vous faites un travail remarquable, hein, puisque vous avez, malgré peu de moyens finalement, hein, des enquêteurs sur les plages pour observer ce qui se passe quand les pêcheurs artisanaux débarquent leurs poissons. Finalement, vous pouvez recenser ce qui se passe dans les pêches artisanales, c'est évidemment plus difficile pour la pêche industrielle. Et puis par contre, vous n'avez pas les moyens de changer les pratiques, parce que comment faire accepter à des pêcheurs qui vivent de ces ressources de changer de profession finalement ?
Effectivement, nous avons fait un grand effort donc d'enquête, de collecte d'informations donc, sur les espèces au niveau des plages. Nous avons mis en place des réseaux d'enquêteurs dans tous les pays. Nous avons fait aussi un grand effort de formation où ont participé donc des espèces de requins au niveau international, soit Bernard Serré, Georges Burgess, au niveau international. Mais aussi, comme vous le dites, c'est très difficile de faire quitter la pêche à des gens qui vivent de ça. Ce que nous essayons d'initier, c'est de mener des actions de reconversion des acteurs. C'est-à-dire que nous essayons qu'ils fassent d'autres choses en dehors de la filière requin.
Mais quoi, par exemple ?
Par exemple, pour le Sénégal, nous avons mené une action pilote avec les femmes qui transformaient auparavant les carcasses de requin. Nous les avons formées à des techniques donc, de transformation d'autres espèces de petits pélagiques, comme les sardines et les sardinelles. Et donc, on l'a payé des fours de braisage pour qu'ils déplacent l'activité des requins vers ces poissons-là.
Ouais, du coup, les femmes qui transforment en général le poisson, hein, c'est elles qui sont en charge de ce métier-là, c'est vrai, vont transformer d'autres poissons, mais ça n'empêche pas évidemment la pêche des requins. Tariq Chekchak.
Écoutez, je voudrais juste partager avec vous une petite expérience qu'on a eue au Soudan, puisqu'on a lancé un programme assez ambitieux côtier au Soudan, et avec une petite partie qui concernait donc les élasmobranches, les requins errés. Et il y a des plongeurs qui vont dans ce pays parce qu'ils veulent voir du requin, ils veulent voir des beaux récifs, et c'est encore un des endroits au monde où c'est possible, malgré les problèmes politiques qu'on peut trouver là-bas. Et on a travaillé avec les opérateurs de plongée pour faire en sorte qu'ils impliquent le plus possible des villageois qui, pour le moment, pêchent les requins, de façon à ce qu'eux-mêmes bénéficient du tourisme de la plongée, assez axé quand même sur l'observation en mer de requins vivants. Et aussi faire des petits calculs économiques par rapport aux autorités locales pour leur faire comprendre qu'un requin vivant pouvait ramener beaucoup plus d'argent que vendre ses ailerons une fois qu'il est mort. Donc ça, c'est le genre d'approche qu'on essaye de promouvoir. On a encore un programme donc où on implique aussi les plongeurs qui plongent là-bas pour observer les requins, mais aussi observer les pêches illégales éventuellement qui peuvent avoir lieu dans le coin. L'idée, c'est de rendre aussi les utilisateurs responsables un petit peu de la protection de la ressource pour laquelle ils payent beaucoup d'argent pour venir en profiter. Et j'avais essayé aussi, ça n'avait pas eu beaucoup de succès, mais c'était une piste que je trouvais intéressante, c'était de faire en sorte que les gouvernements locaux, ça pourrait marcher au Sénégal, forment finalement les pêcheurs à devenir des observateurs des pêches, qui embarqueraient à bord des navires pour faire des contrôles. Et ça, qui connaît mieux les espèces qu'un pêcheur, il suffirait d'assez peu de formation finalement pour pouvoir prendre des mesures, pouvoir contrôler ce qui se passe. Et ça pourrait être pendant une période de transition au moins un débouché pour certains pêcheurs.
Voilà quelques idées, Mika Diop. Après, évidemment, c'est une question de moyens, hein, parce que pour transformer des pêcheurs en guides écotouristiques, il faut un accompagnement.
Effectivement, ça c'est possible aussi parce qu'on a eu l'expérience au parc national de Bandargué en Mauritanie, où nous avons réussi donc à arrêter la pêche aux requins en 2003 et 2004. Et donc, les pêcheurs, avec leur linge, devenaient des guides écotouristiques pour des touristes qui venaient d'Europe.
François Sarano, vous, avec votre association Longitude 180, vous avez réussi à faire adopter une loi en Polynésie contre la pêche de l'aileron de requin depuis 2007. Est-ce que cette loi est appliquée ?
Alors, la première chose, c'est quelque chose qui était une première. Pourquoi est-ce que nous avons fait ça ? En Polynésie française, personne ne pêchait les requins avant 2003. Personne. Les requins étaient plutôt des animaux que les Tahitiens respectaient, que les Polynésiens en général respectaient. Et puis un jour, des marchands asiatiques sont venus, ils ont placardé un petit peu partout des affichettes disant « Vous voulez gagner de l'argent facilement, nous on vous rachète les ailerons de requins ». Et alors tout d'un coup, la pêche aux requins s'est mise à exploser. Avec des amis polynésiens, nous avons trouvé qu'il n'était pas normal que cette pêche, au profit de quelques-uns et aux dépens du long terme et de la communauté mondiale, se développe. Et nous avons pensé aussi que comme ça n'était pas culturel, nous pouvions faire quelque chose. Nous avons donc demandé au gouvernement de Polynésie française d'interdire cette pêche pour les ailerons de requin. Et à force de discussion, au bout de plusieurs années de discussion avec le gouvernement de M. Temaru et donc le ministre de l'époque s'appelait M. Anderson, nous avons obtenu que le commerce des ailerons des requins, la détention des ailerons de requins, de mâchoires, de dents, soit interdite et que les espèces de requins soient en dehors du Mako, toutes classées en espèces protégées, et enfin qu'il ne soit plus possible de pêcher dans les passes où se rassemblent la plupart des requins. Et c'est depuis 2007, c'est une loi de pays. Alors vous soulignez effectivement qu'il est difficile sur un territoire immense comme celui de la Polynésie française de faire appliquer la loi, et personne ne doute qu'il y ait du braconnage, ni nous, ni les Polynésiens, ni même le gouvernement. Mais il y a une différence majeure, entre du braconnage qui détruit un certain nombre de requins et l'autorisation d'une pêche industrielle qui vide littéralement la mer. Lorsqu'il n'y a pas de réglementation, on ne peut s'appuyer sur rien pour protéger les requins. Alors que là, seul le braconnage est, entre guillemets, possible. Voilà une différence majeure. Si dans tous les pays du monde, il y avait une telle réglementation et qu'on n'ait plus que des problèmes de braconnage, les requins seraient sauvés.
Et bien voilà une note d'optimisme. On se retrouve après une petite pause musicale.
I wake up with the sunrise. Rise and shine is but a lie. Lie down again before I even see. Seed cakes freshly baked for me. You stand up and I'm thinking.
Diving with Sandy dans C'est pas du vent sur RFI. Nous parlons aujourd'hui des menaces qui pèsent sur les requins et comment y remédier. Et c'est vrai qu'elles sont sérieuses, notamment, même si ce n'est pas la pire des régions, on l'a dit, mais tout de même au large de la Casamance, comme en témoigne Haïdar El Ali, le président de l'Océanium, une très active ONG sénégalaise interrogée par Alain de Valpo.
Les conséquences, c'est pas compliqué, c'est que la ressource va disparaître. Et puis on a des exemples, parce que si je vous dis qu'à Saint-Louis, il existait une usine qui fabriquait l'huile de foie de requin. Tellement il y avait de requins. Si je vous dis que à Dakar, on avait des longliners qui allaient pêcher avec des fils qui faisaient des kilomètres pour attraper le requin, qu'aujourd'hui, toutes ces pêcheries ont fait faillite. Donc, c'est une pêche artisanale un peu développée qui continue à pêcher le requin et l'arrêt. Mais dans les dernières réserves, dans les derniers confinements, de là où on peut encore en trouver, je trouve que vraiment, il n'y a pas de limite à la bêtise humaine. Parce que moi-même, je suis une famille de pêcheurs qui a commencé dans les îles du Saloum à avoir les mêmes pratiques et à reculer leurs frontières. Ils sont allés à Diogé en Casamance, ils sont allés à Ilinkin, ils sont allés à Caravella en Guinée-Bissau, ils sont allés à Djidoubourkou. Maintenant, ils disent qu'ils vont pousser vers d'autres îles qui sont encore plus au sud. Mais ils vont pousser jusqu'où? Puisque les gens du sud viennent du Ghana et ils se croisent tous les deux. Donc les Ghanéens, depuis l'extrême sud, ont tout pillé et remontent vers le nord. Les Guendariens, les Sénégalais, les pêcheurs ont tout pillé depuis le nord en descendant vers le sud. Et ces deux grandes populations de pêche artisanale se retrouvent là dans les îles Bijagos où il y a une dernière petite réserve. Donc on travaille aussi à sensibiliser les gens de la Guinée-Bissau pour qu'ils fassent attention à la gestion de leurs ressources. Mais la seule forme qu'ils ont trouvée actuellement, c'est de mettre des quotas de pêche qu'on achète. Donc on ramène tout à l'argent. On ne ramène rien aux requins, on ramène tout à l'argent, et ceux qui peuvent payer, peuvent pêcher. Les industriels peuvent payer, ils peuvent pêcher. Les pays peuvent faire des accords, ils peuvent payer, ils peuvent pêcher. Et on ne ramène rien à la gestion du requin, on ramène tout encore à l'argent.
François Sarano, que pensez-vous de ces propos d'Haïdar El Ali?
D'abord, Haïdar est un ami et son...
Un ami de tout le monde, je crois, dans cette émission.
Non, mais tout à fait, de très longue date. Et d'ailleurs, son association et son club de plongée font partie de Longitude 181. C'est un centre ambassadeur de la Charte internationale du plongeur responsable. Donc, nous avons la même philosophie, et je pense la même philosophie que chacun de vos intervenants. Ce que j'en pense, D'abord, ce qui est souligné, c'est que c'est aussi un problème global de pêche. C'est que, en gros, les riches, nous, les Européens, les Américains, nous achetons le poisson. Il s'agit plus simplement des requins. Nous achetons le poisson et nous privons ceux qui en ont vraiment besoin pour se nourrir de ces poissons, alors que nous avons des protéines à en revendre. Donc, le requin s'inscrit dans une politique globale et nous ne changerons pas la politique qui permettrait de préserver les requins si elle ne s'inscrit pas dans quelque chose de plus global. Les pêcheurs de requins aujourd'hui, autrefois, ils pêchaient d'autres poissons, simplement comme il n'y a plus ces autres poissons, parce que nous les avons pillés, soit directement avec nos bateaux, soit par des accords de pêche, ce que disait Haïdar, eh bien, ils sont bien obligés d'aller vers d'autres ressources. Maintenant, en ce qui concerne les quotas, il se trouve que les quotas, c'est-à-dire une quantité, un poids de poisson que l'on a le droit de pêcher, comme c'est défini en tonnes et non pas en nombre de poissons, moins les poissons sont gros, plus on pêche de poissons. Et comme il n'y a plus de gros poissons, plus de grands adultes, on pêche de plus en plus de petits poissons pour faire la même quantité au final. Et comme il n'y a pas de limite de taille de capture, eh bien on va jusqu'au bout de la population. Si l'on veut mettre des quotas, il faut les mettre en nombre de poissons adultes. Voilà, à partir de ce moment-là, ces quotas seront efficaces. Mais sinon, chaque année, on creuse un petit peu plus dans la population et au lieu de préserver cette population, au contraire, on rend encore plus difficile son renouvellement.
Alors, l'un des rôles de C'est pas du vent, c'est d'essayer de créer des passerelles entre le Nord et le Sud, notamment. Est-ce que, par exemple, la Fondation Cousteau ou Shark Alliance pourraient aider Mika Diop dans sa lutte pour la préservation des requins et des raies dans la région de la Mauritanie à la Sierra Leone? Est-ce qu'il y a des possibilités de croiser vos expertises et vos financements, pour simplifier?
En fait, je pense qu'on devrait le faire. Mais bon, pour le moment, c'est pas encore acté. Mais je pense qu'il faut envisager soit une protection des espèces de requins, soit des réserves marines qui soient dédiées aux requins. Il y a tout un travail à faire pour élaborer les dossiers, mais il y a aussi le problème ensuite du contrôle, parce qu'effectivement, il faut que ce soit non pas un paper park, comme on dit, mais quelque chose qui marche, qui fonctionne.
Oui. Tariq Chekchak ?
Je suis tout à fait d'accord, et je dirais que vraiment, on est dans l'interdépendance, là. C'est pas ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Asie, en Australie, en Europe, en Méditerranée, puisqu'en Méditerranée aussi, les nombres d'espèces de requins qui sont en danger augmentent de manière très alarmante. Tout ça est lié à notre propre sort. On ne protège pas les requins simplement parce qu'on est des poètes qui aiment les voir continuer depuis 400 millions d'années, ils le font, à naviguer dans les océans, mais bien parce qu'en détruisant les requins, on détruit aussi un élément clé de l'écosystème marin, vraiment clé, avec des conséquences directes et indirectes sur également les économies maritimes humaines. Je veux prendre un exemple, par exemple, aux États-Unis, ce n'est pas un pays en voie de développement pourtant, en Caroline du Nord, on a trop pêché donc les requins à pointe noire. Tout d'un coup, il y a en fait les populations de coquilles Saint-Jacques qui se sont effondrées. Une économie très importante pour la population locale, humaine, tout simplement parce que la proie du requin, la raie mourine dans ce cas-là, qui se nourrissait donc de coquilles Saint-Jacques, a explosé et a commencé à donc pouvoir utiliser des zones qu'elle évitait avant parce qu'il y avait des requins. Donc ça a une conséquence économique directe, pas forcément sur des pêcheries donc liées à l'activité de pêche de requins, dans ce cas-là, c'est une coquille Saint-Jacques.
Mais parce que les requins sont en haut de la chaîne alimentaire.
Tout à fait, et pour certaines espèces, c'est même les seuls prédateurs, parce que il y a pas d'autres prédateurs que les requins, ou quasiment pas, pour par exemple certaines espèces de mammifères marins ou des tortues de mer, etc. Et en fait, pour certains récifs de coraux, par exemple, quand on élimine les requins, eh bien du coup, vous allez voir une explosion des populations de poissons qui normalement ne devraient pas être en aussi grand nombre, et vous changez complètement l'écosystème au point où, par exemple, vous pouvez avoir des proliférations d'algues là où avant il n'y en avait pas, parce que tout simplement on a changé l'écosystème.
Mika Diop, est-ce que vous constatez déjà des changements d'écosystème suite à la diminution des populations de requins au large de l'Afrique de l'Ouest?
On ne l'a pas encore constaté, mais effectivement, ce que je viens de dire est tout à fait vrai, parce que nous considérons les requins comme les gendarmes des mers qui régulent l'écosystème. Et si, par malheur, ils arrivent à disparaître, effectivement, d'autres espèces qui n'ont pas d'intérêt commercial vont proliférer.
On a compris, hein, vous avez beaucoup de travail en perspective les uns et les autres. François Sarano, vous êtes en train de travailler sur le premier guide des centres de plongée éco-responsables. On l'a compris avec ce que disait Tariq Chekchak tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a peut-être un lien à faire entre les plongeurs qui aiment voir les requins et qui souhaiteraient qu'ils occupent encore longtemps nos océans, et puis les plongeurs qui pourraient arrêter de les tuer et aider et les pêcheurs qui pourraient donc arrêter de les tuer et les aider à aller à leur rencontre. Tout ça est évidemment à construire.
D'abord, les plongeurs sont les premiers témoins de l'évolution du monde marin. Ce sont eux qui ont sous les yeux tout cet univers que les terriens ne voient pas. Et ce témoignage, lorsqu'il est corroboré par les statistiques mondiales de pêche, il devient formidablement intéressant. J'ai moi-même très longtemps travaillé sur la Calypso. Lorsque nous allions dans des zones où il n'y avait pas de pêche autrefois aux requins ou de pêche thonnière, quand nous nous mettions à l'eau, il y avait des requins partout, partout, partout. C'était l'animal le plus banal qu'on puisse voir. Aujourd'hui, retourner aux Andamans, moi j'ai plongé au Cap-Vert, autrefois il y avait des requins partout, partout. Eh bien, allez-y aujourd'hui, il n'y a plus de requins. Donc, les plongeurs, nous pouvons témoigner de ça. Ensuite, nous ne sommes pas une espèce, le plongeur, qui doit bénéficier seul d'un animal extraordinaire qui est le requin. Ce n'est pas pour nous que nous voulons le protéger. De même que nous ne protégeons pas les peintures de la grotte Chauvet uniquement pour ceux qui peuvent le voir. Simplement, la richesse de ce monde, c'est la diversité du vivant, la diversité culturelle. Et ce n'est pas pour nous que nous le protégeons, mais c'est pour l'humanité. C'est ce qui fait sa richesse, c'est ce qui fait son identité. C'est une affaire d'humanisme. Chaque fois qu'une espèce disparaît, c'est notre humanité qui disparaît. Nous devons laisser sur cette planète, à nos enfants et pour des millions d'années, une part, une place à la vie sauvage. Et le requin en est le symbole. C'est indispensable.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Toutes vos coordonnées sont disponibles sur le site internet de l'émission. Si vous voulez réagir ou prolonger notre conversation, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de l'émission ou nous écrire à cestpasduvent@rfi.fr. Merci aux équipes techniques de France Bleu Drôme Ardèche et à Nicolas Benita pour la réalisation. La semaine prochaine, nous plongerons au cœur de la forêt guyanaise. À samedi prochain, donc, même planète, même heure.